va revenir en France et à la Ligue 1. On va parler évidemment du combat, enfin du combat de la lutte pour la première place entre Marseille, Montpellier et Paris Saint-Germain. Vous avez vu l'ancienne
Marseille,
habitude.
Ouais. Oh là là.
Montpellier et Paris Saint-Germain. Alors là, évidemment, Paris Saint-Germain a marqué tout de
six
même.
Buts.
Six buts.
Une journée pour rien, Eugène. Une journée pour rien.
Ah,
Paris a gagné, Montpellier a gagné, l'écart reste le même. J'allais vous dire,
elle est effacée quand même. Effacée, elle était importante. Elle peut être importante.
Elle n'est pas
dans la finale.
Complètement effacée. Vous
non, mais
presque.
Il n'y a plus qu'un but d'écart.
Oui. Elle faisait un point. Elle valait un point de plus. Mmh. Elle ne vaut plus un point de plus. Mmh.
Tout à fait.
C'est quand même différent. Voilà, c'est un week-end.
Maintenant, le 6-1 contre Sochaux. C'est quand même pas...
Non, c'est trompeur, c'est l'ampleur trompeur, du score. Hein. Il peut y avoir 2-1 pour Sochaux à un moment. Mais simplement, comme on le disait depuis 2-3 semaines, il y a à côté Montpellier aussi le risque de commencer à jouer petit bras comme en tennis parce que le titre est là, palpable, et Montpellier n'a pas l'habitude de gérer ça. Il commence à y avoir certains éléments de tension.
On sait quand même que le championnat va se jouer non pas sur des matchs à domicile, où a priori Montpellier et Paris feront le total de points, mais en revanche, le prochain déplacement du Paris Saint-Germain est à Lille et Montpellier ira à Toulouse. On peut imaginer que la prochaine journée soit plus décisive que ne le fut ou plus importante.
Et on peut imaginer que lundi prochain, le prochain thème sur le titre, ce soit plus Montpellier-PSG, mais Montpellier-PSG-Lille.
Et Lille,
parce que Lille n'est pas loin du tout. Ils sont qu'à 5 points de Montpellier. Il y a encore un Lille-Montpellier aussi. S'ils battent le PSG, ils reviennent à hauteur.
Parce que imaginez effectivement une victoire de Lille contre le Paris Saint-Germain et c'est tout loin, sauf une hypothèse de ridicule. Et derrière, Lille jouera Montpellier.
Oui.
Donc on peut, à partir effectivement de lundi prochain, se dire on est face à un championnat à trois. Et dans ce championnat à trois, Lille est peut-être l'équipe qui est sur la meilleure perspective.
Je crois,
absolument.
Je crois. Alors on va prendre des nouvelles, enfin on a pris des nouvelles en fin d'après-midi.
Ah, oui.
On cherche Jean-Louis Tour, on a pris des nouvelles de
Hazard.
Eden Hazard.
Oui.
Et je crois que ça va quand même un peu mieux. Enfin, il a été sérieusement blessé quand même, mais il n'y a pas d'atteinte là à l'endroit difficile. Là.
Oui, a priori c'est assez rassurant pour Eden Hazard, c'est ce qu'on a entendu dans la journée. Ouais.
Mais... je pense que nous serons tous d'accord parce que certains ici même avaient osé critiquer Hazard en disant que c'était pas le prodige absolu du football.
Personne
il suffit de regarder sur un terrain, ça voilà, tout le monde en est capable. De lire ses statistiques, tout le monde en est capable aussi. De voir comment ses adversaires en sont réduits à presque commettre des attentats sur lui pour l'arrêter dans ses chevauchées fantastiques. Il atteint quand même un sommet au niveau du football. Il est
Manchester United. La réponse est non. Par exemple, la réponse à ce que vous dites est non. Il n'est pas au sommet.
Là, alors là.
Ce qu'on reproche,
il est au sommet en Ligue 1 avec Lille.
Ce qu'on reproche à votre démonstration, c'est d'accord pour dire que c'est un jeune joueur de très grand talent, qu'il promet beaucoup, que c'est un prodige, tout ce que vous voulez, mais ne le mettez pas au sommet tout de suite, parce que d'abord, des prodiges qui ne sont pas arrivés au sommet, je peux vous en citer plusieurs, dans le foot français ou dans le foot européen, et quand vous dites au sommet du foot, non, les mots ont un sens, Cristiano Ronaldo est au sommet.
Ah oui, okay.
Bah oui.
Il est au firmament de la Ligue 1, en tout cas.
Oui, mais la Ligue 1...
d'accord, mais à ce moment-là, on en revient à notre éternel débat.
La difficulté d'Hazard, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, tout ce que vous dites est juste.
Merci.
Mais après, il faut transformer cet
essai-là. En tous les cas, ce qui est beaucoup plus c'est que Lille a de très fortes chances... de très bonnes chances de terminer à la troisième place.
Ah oui.
Je vois pas comment ils peuvent être rattrapés
même
par les
peut-être
autres.
Peut-être plus haut, Eugène. Même peut-être plus haut, parce que la semaine prochaine, évidemment... pour les raisons qu'a dites tout à l'heure Eric, il est très possible que ce soit un championnat à trois.
Oui.
Si, en clair, si Montpellier perd à Toulouse, si Paris perd à Lille, vous avez...
Ouais.
D'autant que Lille rencontre Montpellier lors de
D'autant que Lille rencontre Montpellier lors de l'avant-dernière journée.
Ça sera dans un mouchoir de poche. Ouais. Il reste 15 points à prendre, nous sommes d'accord, 15 points à prendre, 5 matchs, 3 équipes possibles à partir de dimanche prochain.
Ouais. Voilà. Et donc, vous passez sur la petite remontée de Lyon. Enfin, c'est même pas une remontée.
Oh non, moi j'étais au match hier soir.
Ah.
T'es allé voter avant?
Ouais, je suis parti exactement. Parce qu'en fait, j'ai passé la journée avec les Lorientais, là, dans le cadre d'une série qu'on fait toute la saison avec l'équipe MAG. Et Lyon a tout fait pour donner le match en première mi-temps à Lorient, qui a marqué 2 buts, qui aurait dû en marquer 3, voire 4. Et puis, en deuxième mi-temps, les Lorientais se sont dit, tiens, on va rendre... l'appareil à Lyon. Et comme les Lorientais sont aussi généreux, mais que les Lyonnais sont un peu plus adroits, ils ont gagné un match que jamais, au grand Dieu jamais, ils n'auraient dû gagner.
C'est pareil.
Donc,
ça devrait être tout le temps comme ça, on verrait des buts au moins.
Dire que Lyon peut revenir à la troisième place aujourd'hui me paraît être d'une hérésie absolue sur le plan
mais
football.
Mais comment vous expliquez par exemple que Gonalon ou Grenier soient en dessous de tout? Gonalon, par
peut-être
exemple.
Parce qu'ils sont jeunes et que
Gonalon cette saison
fatigué quand même.
Non mais il ne progresse pas. Cette
Gonalon,
année, il ne
comment vous expliquez que Gonalon, qui était justement un bon jeune joueur pour,
qui était un espoir de l'équipe de Lyon,
mais oui,
et comment même, vous expliquez...
même de l'équipe de France.
Oui, c'est pour nous compliqué à ce micro de l'expliquer puisque récemment Rémy Garde évoquait lui-même les difficultés qu'il avait à comprendre le comportement individualiste de ses joueurs et il expliquait que maintenant avec la trêve hivernale, un joueur, il prenait l'exemple de Sissoko, il citait d'ailleurs ce nom dans cette interview, il disait mais Sissoko, il passe 3 heures par jour avec nous, donc 21 heures en dehors. Quand nous on essaye de le cadrer, de lui faire comprendre qu'un club comme Lyon il va progresser, qu'il faut du temps et que quand il sort on lui dit tu sais t'as Liverpool, t'as Newcastle, tu vas gagner deux fois plus et que t'as le mercato hivernal donc si tu commences à foutre un peu le bordel en novembre-décembre bah tu vas peut-être être transféré en janvier et puis après en mars-avril tu recommences à penser bah ces joueurs-là à un moment donné comment tu fais pour les tenir?
C'est l'interview de Johan Cruyff dans l'équipe Mag ce samedi où il appelle ce qu'il y a autour des joueurs des rats, je crois. Hein, c'est vous qui avez fait l'interview. Des rats autour et qu'effectivement, ce qui peut combattre ça, c'est l'appartenance à un club que n'a pas Lyon mais qu'a par exemple le Barça parce qu'un joueur va y rester 10 ans.
Tout à fait.
Alors, on va revenir un peu sur le score très large de Paris Saint-Germain devant Sochaux 6-1. On a tout de même dit tout à l'heure que c'était contre Sochaux, c'est vrai. Et j'en profite pour signaler que notre ami Vincent Duluc vient de sortir un livre consacré aux danseurs de claquettes. Je me demande pourquoi, mais enfin bon.
Et il n'a pas été mauvais contre Sochaux.
Il n'a pas été mauvais.
Il a été même. Il a ça n'a pas été le meilleur, mais il a fait quand même deux très belles passes.
Il s'est baladé dans une défense de Sochaux qui lui disait à tout moment « Baladez-vous, mon cher, baladez-vous !» Voilà, donc c'est très bien. Non, alors en revanche, il faut corriger de mauvais jugements qui abondent depuis la fin de l'année dernière concernant Néné. Oh. J'ai toujours dit ici, mais pourquoi tu rigoles?
Mais parce que moi j'aime
j'ai
pas
concerné.
Néné.
Ouais. J'ai depuis le début de la saison, je vous dis que c'est le meilleur à Paris Saint-Germain. Et il a encore prouvé.
Quand il fait des passes, et quand il sort pas la nuit aussi.
C'est le meilleur ça, quand vous lui laissez un ballon tout seul. Oui, c'est très bien. Mais pour aider un jeu collectif, non, Néné.
Une chose est sûre, il y a quand même c'est le cinquième but, je crois, du Paris Saint-Germain, qui est quand même une illustration absolue de ce que Néné doit comprendre, c'est que quand il est sur le côté gauche, qu'il a cette inspiration superbe de faire cette transversale en retrait de 60 mètres à Bodmer, que le jeu est totalement décalé, qu'il y a un débordement côté droit et qu'au deuxième poteau, il n'y a plus personne, il reçoit le ballon. On se dit, mais Néné, de temps en temps, effectivement, corrige tes penchants un peu égocentriques et rends-toi compte qu'autour de toi, il y a de la qualité, il y a du talent, il y a un jeu collectif. Et dès que ce Paris Saint-Germain se met à jouer collectif, on n'en a plus besoin de savoir s'ils ont un numéro 9, pas de numéro 9, s'ils jouent avec un avant-centre ou s'ils jouent pas. À un moment donné, cette équipe, elle a un allant. Mais elle n'a un allant qu'à partir du moment où les égos se remettent un petit peu dans les poches. Ouais.